élections législatives, les professions de foi.
Jean Raffa, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 58 ans, vous habitez Chalon-sur-Saône, vous êtes promoteur de projets immobiliers médicaux au Cameroun et vous vous présentez pour la première fois sur la 4e circonscription de Saône-et-Loire. Vous représentez le parti Reconquête d'Éric Zemmour. Pourquoi, dites-nous, sur un plan personnel, vous présentez-vous à ces élections législatives ?
Eh bien, parce que je suis rentré en politique en juillet dernier. J'ai senti l'urgence de m'engager parce que j'ai trouvé dans le discours d'Éric Zemmour un constat de vérité qui est dit assez crûment. C'est parfois dur à entendre, mais il décrit le réel tel qu'il est. Et que je pense qu'une grande partie des problématiques auxquelles nous faisons face, je parle là non pas de notre pays dans l'ensemble, mais y compris les citoyens dans leur vie de tous les jours, y compris dans la 4e circonscription, à une dilution de notre pays, donc face auquel s'installe en fait une prédominance d'une Europe qui fait fi des traditions, puis des gens les plus modestes en fait. Moi je suis chrétien, catholique, cette façon de vouloir mettre les hommes sur le côté pour les transformer en objets de consommation et consommateurs, le plus servile possible, le plus assisté possible, qui est un projet que je pourrais rapidement qualifier de États-Unis d'Europe, antichambre de la mondialisation. Je ne suis pas d'accord avec ce projet-là. Et je trouve que toute la classe politique, jusqu'à présent, s'en contentait très bien haussant les épaules dans le meilleur des cas en disant bah c'est la marche du monde et d'autres qui sont tout à fait comme notre exécutif, notre gouvernement actuel sont des acteurs, des prosélytes de ce monde qu'on nous prépare et pour lequel je ne suis pas un fervent défenseur. Voilà, dans la mesure où effectivement il laisse de côté les plus faibles, les plus pauvres et qu'il a tendance à appauvrir les gens les plus démunis et à enrichir les plus riches. Et c'est pas comme ça que je vois faire société.
Quel projet ou type de projet vous souhaitez faire avancer prioritairement quand vous serez élu député ?
Alors, moi, je pense qu'il y a un projet fondamental qui est un plan pour la campagne, un plan pour la ruralité, on peut l'appeler comme on veut. Mais je crois qu'il y a eu une quinzaine de plans pour la ville, pour lesquels de nombreuses actions ont été entreprises sur les décennies passées et pour lesquels de nombreux fonds ont été dévolus, avec un succès mitigé. Et pendant tout ce temps, en fait, la ruralité, elle s'est retrouvée un petit peu toute seule. Les services ont disparu au fur et à mesure. Je ne parle pas d'ailleurs que des services de soins, mais notamment les services de soins, les médecins. Heureusement, il reste des infirmières, mais les médecins ont disparu souvent. Les collectivités locales sont obligées de faire des efforts terribles pour arriver à faire s'installer des médecins en zone rurale. Les postes ont fermé. Enfin, vivre à la campagne, ça devient assez difficile dans la mesure où on n'a pas un accès aux soins, un accès aux services et à l'emploi aussi. Et je pense qu'il y a un vrai travail global, systémique, de réflexion sur la campagne. En fait, la campagne, c'est l'avenir, je pense. La zone rurale, c'est l'avenir c'est notre avenir. On veut pas tous s'agréger dans les villes. Beaucoup de gens, avec l'expérience du confinement, se sont rendus compte que vivre au vert, s'il y avait les services qui étaient présents, c'était désirable. Mais il faut aussi l'accompagner d'incitation de l'État et d'un véritable plan. Pourquoi ? Parce que même si les élus locaux, les conseils régionaux, départementaux, même si les initiatives locales, les corps intermédiaires font leur possible pour créer des services, moi, dans le village d'où je viens, Plot, à côté de Tournu, la MAM qui est là pour garder les enfants lorsqu'il n'y a pas de place à la crèche, c'est associatif, c'est construit sur place avec des assistantes maternelles. Les gens sur place sont capables de se débrouiller tout seuls. Mais si les moyens de l'État, je ne parle pas que de moyens financiers, je parle de moyens institutionnels, c'est la préfecture, voilà. Si l'État lui-même n'est pas engagé dans un plan avec un projet pour rendre désirable est possible le fait de très bien vivre à la campagne, de réduire les déserts numériques. Moi, dans mon village, mon téléphone passe pas, je suis à la poste, c'est dommage. Bref, d'arriver à faire en sorte qu'il y ait maximum de services et qu'on puisse travailler dignement, vivre de son travail, éviter les déplacements, comme le font beaucoup, à qui on a demandé d'aller vivre en périphérie des villes ou à la campagne, élever ses enfants, vivre sur place, trouver tous les services qu'on peut désirer sur place. Il faut une volonté politique pour le faire. Et mon engagement en politique, il vient du fait que justement, on peut changer les choses, on peut mettre sur pied un véritable projet pour la ruralité. C'est juste une question de volonté politique. Mais ça n'est pas dans le projet des États-Unis d'Europe, si vous voulez. Ce n'est pas dans le projet de la mondialisation de se préoccuper de la ruralité. Parce qu'elle n'est perçue dans ce schéma-là que comme une somme de consommateurs et une somme de production. Mais la vie, c'est bien plus que la production et la consommation.
Quelle serait votre principale mesure pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes ?
Moi, je pense qu'il faut avoir... Il faut arrêter de maintenir les gens dans un état de précarité par leur travail. Fondamentalement, il faut qu'on puisse vivre dignement de son travail. Et ce n'est pas avec un SMIC qu'on vit dignement de son travail, aujourd'hui. Donc c'est une mesure radicale, je pense, qu'il faut avoir. Et cette mesure radicale, je pense qu'il faut aller la chercher du côté d'une transformation du salaire brut en net et d'aller trouver les cotisations ailleurs. Et dans le même temps, permettre aux employeurs d'avoir un allègement de leur fiscalité qui soit drastique, pour leur donner les moyens de pouvoir embaucher, pour leur donner les moyens de pouvoir pérenniser des emplois et se développer. Alors que là, bon, la vie chère, l'essence augmente, on a le droit à une prime, l'énergie augmente, on rajoute une prime. Si vous voulez, on est dans une forme d'assistanat, alors que je pense que le problème doit être pris de fond, c'est-à-dire de remettre en cause le financement des cotisations sociales et des charges patronales par un autre biais. Et on peut le faire sur une taxe sur les transactions de 1%, 1,5% pour financer un projet comme celui-là, ce qui permettrait aux gens d'avoir un bien meilleur pouvoir d'achat sans courir sans cesse derrière des aides de l'État pour pouvoir vivre correctement.
Comment voyez-vous votre rôle de député dans une éventuelle opposition ?
Oui, ce ne sera sûrement pas dans la majorité, vous l'avez bien compris. Ça, c'est... Plus qu'opposition, moi, c'est de la résistance. Si les électeurs devant lesquels je me présente me font l'honneur de m'envoyer à l'Assemblée nationale, j'y vais pour résister, j'y vais pour me battre. J'y vais pour combattre la marche de ce système qui broie les petits et qui fait fi de la vie dans la ruralité, qui fait fi des travailleurs pauvres, qui fait fi de la dignité humaine, de la naissance à la mort naturelle. Et c'est contre ça que je veux me battre, pour qu'on reconnaisse ça. Et puis, vous connaissez sans doute le programme de Reconquête. Il y a un attachement puissant aux traditions, à la culture. Et le projet de société, certes, le gouvernement n'a pas de programme, mais il a un projet, et son projet de société, de mondialiser de la France dans l'Europe et l'Europe dans le monde, il dilue en fait ce que nous sommes. Et je pense que de la différence entre les êtres naît le génie. Si on est tous des clones américanisés, je pense qu'on n'ira pas bien loin.
Pourquoi voter pour vous plutôt que l'un des 6 autres candidats en lice dans cette circonscription de Saône-et-Loire, la 4e ?
Alors, il faut voter pour moi parce que les 6 autres ne remettent pas en cause du tout ça. Si je voulais parler un peu comme Mélenchon, je dirais que ce sont des partisans du système, en fait. C'est-à-dire que de Macron, même la gauche, même la candidate Cécile Untermaier, ne remet pas en cause ça. Tout le monde est dans la même logique. Les 4 autres que j'ai pu rencontrer, la majorité présidentielle de gauche et du Rassemblement national, voient une Europe qui est une Europe dont ils acceptent tout, y compris les conséquences sur les entreprises françaises, y compris sur l'artisanat, y compris sur le petit commerce, y compris sur la désertification des zones rurales. Et ils pensent, dans leur fort intérieur, que c'est un mal nécessaire de cette mondialisation à l'œuvre et de cette Europe telle qu'elle est faite là, avec la Commission européenne. Moi, je pense que quand on parle de souveraineté européenne, on est déjà en train d'expliquer aux Français qu'ils ne sont plus souverains, qu'ils ne décident plus pour eux-mêmes, que la souveraineté nationale n'a plus de raison d'être. Et c'est bien ce qu'on voit. La Commission européenne s'apprête à lever des taxes. Elle a réussi, grâce à quelques arrêts de la Cour européenne, à faire rentrer automatiquement les directives européennes dans le droit français, sans qu'il y ait de débat. Donc ça veut dire qu'on est piloté actuellement par des gens qui ne sont pas des élus, dont l'objectif est un grand marché et dont notre vie quotidienne est le dernier des soucis, puisque tout ce qu'on nous demande, c'est d'être des consommateurs, même plus des électeurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut se déplacer en masse, c'est pour ça que je pense qu'il faut résister. Vous savez, Cicéron, il commençait tous ses discours à Rome en disant « il faut détruire Carthage », même s'il parlait tout à fait autre chose. Ça lui a pris des dizaines d'années, mais finalement, Rome a détruit Carthage pour son plus grand bien. Donc il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent, qui attirent l'attention des Français. Vous voyez, moi, à chaque fois que je rencontre des gens, je leur glisse un mot sur le passeport numérique européen. Ils découvrent, alors que c'est un projet de texte qui est à la Commission européenne depuis avant les présidentielles. Donc voilà, toutes les informations sur les citoyens vont être stockés, on ne sait pas où, on saura tout de votre consommation, de votre état de santé, de ce que vous votez, et tout ça sera quelque part. Et si vous ne voyez pas là un risque majeur de contrôle social, je vous dis que vous avez bien aimé le QR code, vous adorerez le portefeuille numérique européen, parce que là, pour le coup, c'est du vrai contrôle.
Jean-Rafa, merci.
Je vous en prie, merci de votre accueil.